Radio Grenouille, cuisine en friche, 10 minutes, 10 minutes, cuisine en friche, 10 minutes.
10 minutes avec. 10 minutes avec Caroline Champion à propos d'une intervention qu'elle a fait hier au banquet scientifique, repas colloquant pour 200 convives. C'était donc hier mercredi à la Friche Belle de Mai à 19h. Bonjour Caroline Champion.
Bonjour.
Alors, vous êtes intervenue dans ce banquet scientifique, mais vous n'êtes pas scientifique.
Non. Je suis plutôt exploratrice de saveurs.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
C'est un métier que j'ai inventé dans l'idée de dépasser toutes les frontières. Être exploratrice, ça veut simplement dire aller voir. Aller voir, on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver, on va voir et c'est déjà le principe. Et de saveur, puisqu'il fallait bien choisir un terrain d'exploration et que le goût est suffisamment vaste pour ne pas être épuisé facilement.
Mais c'est-à-dire que vous vous déplacez sur les continents, en France, sur le territoire de Marseille ?
C'est une exploration symbolique et concrète. L'idée d'explorer, c'était à la fois associer la pratique et la théorie. Donc je fais de la recherche en philosophie esthétique sur qu'est-ce que c'est que le goût, comment on peut en parler, comment ça fonctionne, quelle relation ça peut avoir avec le beau, justement le goût, l'articulation entre le sens concret et abstrait du mot. Et en même temps, je travaille avec des restaurants, des épiceries fines. Voilà, j'ai aussi un pied dans le terrain. Et enfin, je fais aussi des performances et des expérimentables qui sont des propositions autour du goût.
Alors dans vos recherches, dans les rencontres que vous avez établies, est-ce que vous avez identifié un goût universel ?
Le goût de l'humain.
C'était pas une saveur. Vous voulez dire le goût des corps ?
Ça peut être métaphorique ou pas. Je vous laisse réfléchir.
Vous présentez quelque chose qui s'intitule « L'éloge du pourri ».
Oui, c'est mon prochain sujet d'ouvrage, puisque le premier était sur l'art et la cuisine, les arts et la cuisine, et donc il fallait un deuxième plutôt sur goût et dégoût. Donc un éloge du pourri avec cette problématique de qu'est-ce que c'est que la fermentation, qu'est-ce que c'est que le pourri, quelle est la frontière entre les deux et en quoi elles peuvent nous aider à réfléchir sur la frontière en général entre le goût et le dégoût, y compris dans l'art.
Alors concrètement, le pourri, qu'est-ce que c'est ?
C'est une sorte de... c'est très vaste en fait, mais la définition qu'on peut donner du pourri, c'est déjà que c'est un processus. C'est pas quelque chose de fixe. Et donc, entre le pourri et le fermenté, il n'y a pas une différence de nature, il y a une différence de degré. Il y a un moment donné où c'est quelque chose de sauvage et de grouillant, déliquescent. Et dans l'autre cas, on l'amène dans la culture et on en fait quelque chose de délicieux.
Vous voulez me dire que finalement, dans le goût, il y a du dégoût et dans le dégoût, il y a du goût ?
Exactement. En tout cas, de la frontière, on menace toujours de basculer d'un côté à l'autre.
C'est-à-dire qu'on peut avoir le goût du dégoût ?
Oula, vous allez hyper loin. On peut avoir le goût du dégoût aussi, mais il y a une fascination et il y a une symbolique du pourri qui est assez étrange, puisque pourquoi il y a un phénomène de rejet, la répulsion qu'on peut avoir envers ce qui est pourri et l'adoration qu'on peut avoir avec quelque chose qui est fermenté mais qui n'est jamais dénué d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'un fromage absolument parfait dans sa fermentation, il peut quand même, ça reste troublant comme expérience, c'est jamais aussi simple que du cru. On est sur quelque chose qui est quand même beaucoup plus complexe, qui vous donne à savourer le goût du temps, puisque c'est du temps qui a permis au lait de devenir quelque chose d'aussi complexe en bouche. Et en même temps, voilà, le fromage, ça sent un peu le cadavre, ça sent un peu le sexe. Enfin, il y a toujours un truc un peu bizarre avec la fermentation, quel que soit son domaine et sa maîtrise.
C'est-à-dire que l'aspect visuel est important dans l'aliment.
L'aspect visuel est important, mais même au niveau du goût, il y a quelque chose de sauvage dans le fermenté. De sauvage, mais de maîtrisé, quoi. C'est la domination de la nature par la culture.
Sans doute, mais aujourd'hui, par exemple, les aliments qu'on trouve dans les grandes surfaces, tout emballés, les tomates sont bien rouges, les citrons sont bien jaunes, bien fermes. Et donc, on associe la qualité de l'aliment, sans doute son attirance, avec aussi son aspect esthétique.
Alors esthétique visuelle, puisque l'esthétique n'est pas que visuelle. Regardez, quand on parle d'un son, il peut y avoir un beau son et c'est extrêmement peu visuel, c'est plutôt temporel, c'est ce que j'essaye de montrer. Mais effectivement, la vue est un indice du goût, a priori, même s'il peut y avoir on peut nous jouer des tours là-dessus. Mais c'est marrant que vous parliez du supermarché, parce que justement l'air du pasteurisé, c'est l'anti-pourri, c'est l'anti-fermentation, à la faveur de l'hygiène, de quelque chose qui serait plutôt du surgelé que quelque chose qu'on conserve, parce que l'idée... Fermenter au départ, c'est aussi pour conserver. On conserve un fromage, on conserve du lait. Une vache en période de lactation, elle fait 2000 litres de lait. Qu'est-ce que vous en faites ? Vous le faites fermenter, comme ça vous le gardez pendant des années.
Donc le pourri a à voir avec la conservation.
Au départ, la fermentation a à voir avec la conservation. Le pourri, c'est l'inverse. Si le lait, on n'en fait pas du fromage, il pourrit. Il tourne, il se dégrade. Et si, au contraire, on maîtrise ce processus, il devient du fromage.
Alors concrètement, vous êtes exploratrice, votre méthodologie, vous allez à la rencontre des habitants, des gens que vous rencontrez dans la rue, ou vous allez rencontrer des personnes bien précises dans votre recherche?
Il y a un peu de tout, il y a de la bagnode dans les rues qui permettent de flairer des choses et de rencontrer des gens un peu par hasard. Il y a aussi une action un peu plus ciblée et puis il y a des lectures qui amènent aussi à vouloir rencontrer des gens ou pas.
Des lectures?
Des lectures.
Comme par exemple?
Ouh! des lectures en tout genre, des lectures... qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Margaret Powell, un livre qui s'appelle « Les tribulations d'une cuisinière anglaise ». C'est un titre qui a été mal traduit parce que ça s'appelait « Below Stairs », qui était un peu plus énigmatique. Et c'est le journal d'une femme qui a été cuisinière en Angleterre au début du siècle et qui raconte toutes les mutations de la société anglaise à travers la cuisine.
Alors tout à l'heure, en introduction, vous aviez dit que vous étiez également performeuse?
Oui.
Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, les expérimentables, c'est quelque chose que j'ai créé il y a quelques années sur l'idée que quand on place une table dans un endroit qui n'est pas a priori fait pour ça et qu'on y invite quelqu'un et qu'on met sur cette table des choses qui sont en cohérence avec le lieu et l'invité, il peut se créer quelque chose d'un peu expérimental, justement.
Comme par exemple une rame de métro.
Exactement. Quand on transforme une rame de métro en wagon-restaurant, ça fait une sorte d'Orient Express post-moderne avec des plats qui parlent un peu du voyage en même temps. Et... bon, il se passe quelque chose d'assez fou, puisque le métro, c'est comme manger, c'est tous les jours, on peut le prendre comme une contrainte, et en changeant un tout petit peu le regard qu'on pose là-dessus, ça peut devenir un voyage. Si on boit du thé, a priori, on peut avoir son Lipton tous les matins, mais on peut aussi regarder le thé comme le résultat d'un voyage. C'est quelque chose qui a voyagé et qui parle, qui a tout un imaginaire du voyage. Boire du thé dans un métro avec une table... tout d'un coup, ça transforme l'expérience quotidienne en quelque chose d'assez étonnant.
Et ensuite, on arrive en retard au travail.
Mais en fait, les gens, c'était assez beau, puisque les gens s'asseyaient. Je m'étais dit que pour cette expérimentable-là, il ne fallait pas d'invités, puisque c'est un lieu d'anonymat et de flux. Et donc, les gens s'asseyaient, ils restaient 3-4 stations, et ils descendaient et quelqu'un d'autre venait à leur place. Et j'ai fait toute la ligne comme ça. Et donc, c'est des gens que je ne reverrai pas. Peut-être qu'ils m'écoutent. Non, mais en tout cas, c'était assez amusant de se dire c'est complètement anonyme et en même temps, on est vraiment sur ce que c'est que la racine de l'humain. C'est-à-dire, on se retrouve autour d'une table et il se passe quelque chose, c'est fou.
Merci Caroline Champion.
Merci à vous.
C'était 10 minutes avec Caroline Champion à propos de cuisine en friche. Elle intervenait dans le banquet scientifique Repas colloquant pour 200 convives. 10 minutes avec cuisine en friche.